Vous écoutez On lit pour vous.
Un programme destiné aux victimes de violences, victimes de compression. Un texte de Marie-Michel Sioui, paru le 20 février 2025 dans Le Devoir. Les maisons d'hébergement pour femmes s'inquiètent de la fin d'un projet qui a permis, en un an seulement, à près de 200 victimes de violences conjugales ou sexuelles, d'être représentées par des avocats spécialisés devant les tribunaux. En septembre 2024, Québec a mis fin à une partie du programme Rebâtir, lancé en 2021 pour favoriser l'accès à la justice aux victimes de violences. La ligne téléphonique Rebâtir, qui offre depuis 2021 4 heures de consultation juridique gratuite aux victimes de violences conjugales ou sexuelles, demeure active, mais le deuxième volet du projet passe à la trappe. C'est vraiment dommage. Nous, on capote avec ça. On pense à nos femmes victimes de violences conjugales. Il faut que ça continue, dit en entrevue Xuan Nguyen, coordonnatrice clinique à la Maison du Réconfort, une maison d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales à Montréal. On nous avait donné beaucoup d'espoir avec ce projet-là. On s'était dit « enfin » et ça n'a pas duré. La phase 2 du projet Rebâtir visait notamment à assurer la représentation par un avocat des victimes de violences conjugales ou sexuelles en cas de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, c'est une tactique des conjoints violents, explique Manon Monastès, directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Un individu sollicite les services de nombreux avocats, autant à l'aide juridique qu'au privé, de sorte que la personne victime se trouve disqualifiée lorsqu'elle tente d'obtenir les services de ses juristes, en vertu du principe selon lequel un avocat ne peut être impliqué auprès de deux parties d'une même affaire. Résultat, on a des femmes en Gaspésie qui se retrouvent avec des avocats à Montréal, illustre-t-elle. En un an, la phase 2 du projet Rebâtir avait permis l'ouverture de 190 dossiers. La Commission des services juridiques, CSJ, de qui relève le programme, a identifié des situations de conflit d'intérêts dans 26 cas, dont 14 % des dossiers. Jugeant ces cas peu nombreux, la CSJ a ainsi décidé de mettre fin à la deuxième phase, qu'elle qualifie de projet pilote. Les 93 dossiers toujours actifs dans le programme Rebâtir 2 seront tout de même menés à terme par les avocats du projet, assure la CSJ. Victimes des compressions? Au groupe représentant des victimes de violences, la CSJ aurait donné une explication différente. Des coupures dans le budget, résument Mesdames Monastès et Nguyen. Pour Mme Monastès, la fin de Rebâtir 2 est une catastrophe. Les avocats de Rebâtir 2 étaient formés pour les cas de violences conjugales ou sexuelles et ils ne faisaient que ça, souligne-t-elle. Leur présence générait possiblement des économies pour l'État, vu la capacité des avocats à mieux naviguer dans ces dossiers complexes, souvent teintés par la multiplication de démarches de la part des accusés, croit-elle. Moi, ce que je comprends d'un projet pilote, c'est qu'on teste quelque chose. Si ça va bien, on continue, lance aussi Louise Riendeau du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Partout au Québec, son organisation a répertorié les cas de femmes ayant eu du mal à trouver des avocats à l'aide juridique. On ne veut pas mettre la faute sur les avocats de l'aide juridique. On le sait, ils sont complètement débordés, précise Mme Nguyen. Elle a accompagné une femme qui a pu être représentée par une avocate de Rebâtir et dit avoir constaté toute la pertinence du service vu l'expertise pointue de la juriste. À son avis, l'accompagnement de Rebâtir a fait toute la différence, jusque dans le jugement rendu dans cette cause de garde d'enfants. La directrice de Rebâtir, Marie-Claude Richer, n'a pas souhaité répondre aux questions du Devoir qu'elle a dirigées vers la CSJ. Dans un courriel au Devoir, la vice-présidente de la CSJ, Nadine Coussa, a dit croire que le récent rehaussement des tarifs de l'aide juridique motive des avocats du privé à accepter des mandats d'aide juridique en cas de conflit d'intérêts. Pour rappel, le nombre d'avocats du privé qui prenaient des dossiers d'aide juridique avait chuté de 20 % en 2024, surtout en raison des conditions de travail. Les tarifs ont été rehaussés depuis. Débordés et pas spécialisés. Comme Mme Nguyen, Mesdames Monastès et Riendo constatent que les avocats de l'aide juridique sont débordés et donc difficiles à trouver, en plus d'être parfois mal formés pour gérer des dossiers de violence sexuelle ou conjugale. « Nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ça ne marche pas », dit Mme Monastès. Rebâtir deux, c'était quelque chose qui fonctionnait. À elle seule, la ligne téléphonique de Rebâtir a permis d'aider plus de 16 000 victimes par le biais de près de 69 000 consultations, selon les chiffres du ministère de la Justice. Les 4 heures de consultation gratuite, ça fait toute la différence, souligne Mme Riendo. Mais avoir une consultation, c'est une chose. Si après, tu n'es pas représenté, tu fais quoi? Il y a des femmes qui se sont fait dire par un avocat « Représentez-vous vous-même ». Dans une lettre transmise au ministre en novembre, Mme Riendo soulignait que l'équipe de Rebâtir avait su développer une expertise solide qui permet de bien conseiller les victimes et qui pourrait leur assurer une meilleure défense de leurs droits, défense qui n'est pas accessible à toutes par les services actuellement disponibles par le réseau de l'aide juridique. En guise de réponse, le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a notamment écrit que les préoccupations quant à l'accès à la justice sont « au cœur des travaux accomplis et en cours par le ministère de la Justice ». C'était un programme destiné aux victimes de violences, victimes de compression, un texte de Marie-Michel Sioui, paru le 20 février 2025 dans Le Devoir.
Huit solutions pour les urgences qui débordent, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 mars 2024 dans La Presse. La moitié des Québécois qui se présentent aux urgences ont des problèmes non urgents selon Santé Québec. Beaucoup sont incapables de trouver un rendez-vous médical ou ne savent plus vers qui se tourner. Comment régler ce problème? Voici des pistes de solutions proposées par des experts. Mieux accompagner les patients. Le Dr Réal Barrette, coordonnateur de première ligne au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, refuse de jeter la pierre aux patients qui vont aux urgences pour un problème mineur. Ils ont l'impression que c'est grave, dit le médecin qui a travaillé 22 ans aux urgences. Il faut être attentif à ça, il faut écouter ça. Le Dr Barrette croit qu'il faut accompagner ses patients en déployant, par exemple, une infirmière du guichet d'accès à la première ligne, GAP, physiquement aux urgences. Elle les réorientera, au besoin, vers des cliniques médicales, leur expliquera en quoi leur problème est mineur et les incitera à contacter le GAP 811, poste 3, à l'avenir. Il faut faire de l'enseignement. Au Québec, on a appris, quand on avait un problème, d'aller consulter dans les urgences. C'est une culture de société. Sauver des rendez-vous grâce à l'IA. Des patients qui devraient voir un médecin ne parviennent pas à obtenir de consultation, mais d'autres se retrouvent dans un cabinet médical, alors que ça ne devrait pas être le cas. C'est pour éviter de telles situations que l'outil d'intelligence artificielle VITR.AI sera déployé dans tous les groupes de médecine familiale GMF du Québec à partir du 1er avril. Grâce à cette plateforme, l'agente administrative de la clinique pose des questions aux patients au téléphone, l'aiguille vers le bon professionnel, médecin, infirmière, pharmacien, travailleur social, etc., et lui offre un rendez-vous au besoin. Un projet pilote a été menée dans 49 GMF l'année dernière et 13,3% plus de patients ont été en mesure d'être vus à temps par les professionnels de la clinique, dit le pharmacien et fondateur de VITR.ai, Alexandre Chagnon. Appelez InfoSanté. Quand on appelle InfoSanté, 811 poste 1, on aboutit toujours aux urgences, clament certains. Faux, martèle Santé Québec, qui signale que le tiers des gens y sont dirigés. La docteure Ariane Murray, chef du département régional de médecine générale de Montréal, encourage la population à recourir à InfoSanté pour des problèmes non urgents, dont des symptômes grippaux ou de gastro-entérite. À la centrale d'InfoSanté à Montréal, une file d'attente est réservée à ces deux problèmes précis. Les agentes administratives utilisent l'outil VITR.ai. L'attente y est moins longue que pour la ligne générale. Le délai moyen de réponse était de 16 minutes 31 secondes au 24 février, contre 102 minutes 7 secondes. Le pourcentage d'appels abandonnés s'élevait à 19,7% contre 47,2%. Découragée d'attendre au téléphone, la docteure Murray recommande d'opter pour la file d'attente virtuelle qui permet d'être rappelée dès qu'un agent se libère. Cette file est toutefois limitée à 300 personnes, un problème qu'il faudra régler, estime la médecin. Cours 101 de premiers soins. Le savoir des grands-mères s'est perdu, selon la docteure Sophie Gosselin, présidente du regroupement des chefs d'urgence du Québec. Il y a un manque de connaissances générales, de savoir social, qui est de comment prendre en charge une fièvre, prendre en charge une plaie, constate-t-elle. Elle lance l'idée d'un cours de premiers soins pour les élèves du secondaire ou d'un cours de gestion de sa santé pour les cégepiens. Québec pourrait également financer, selon elle, des organismes communautaires afin qu'ils donnent des séances d'information sur la manière de naviguer dans le réseau public de santé. Des sites fiables et officiels peuvent aussi donner un coup de pouce aux patients. Un exemple, le guide du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, monproblèmedesanté.ca, qui traite de 16 problèmes de santé, constipation, étourdissement, détresse psychologique, etc., et indique aux gens quand ils doivent appeler le 911, se rendre aux urgences, voir un médecin le jour même ou recourir à un professionnel. SOS pharmacien. Le pharmacien peut rédiger une ordonnance pour plusieurs problèmes de santé mineurs, comme l'infection urinaire chez la femme, le zona et les brûlures d'estomac. Il peut donner un médicament antiviral aux personnes souffrant d'influenza et à risque de complications, et renouveler des ordonnances, mais pas nécessairement toutes. Si votre médecin vous a prescrit un antibiotique pour une bronchite il y a 6 mois, on ne pourra pas le renouveler si vous croyez que vous en faites une autre, dit le président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Benoît Morin. Contraindre les médecins. L'ancien ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette, ne voit qu'une solution efficace pour régler le problème des cas non urgents aux urgences, contraindre les médecins de famille à temps partiel à travailler à temps plein. Ces médecins à temps partiel gagnent très bien leur vie et il serait, à mon sens, normal de leur demander de fournir un volume d'activité minimal. Pas 80 heures par semaine, précise-t-il. Par contre, ceux qui sont à 3 jours par semaine, s'ils faisaient du 5 jours par semaine avec des horaires adaptés, on aurait une capacité professionnelle de qualité supérieure, juge-t-il. Davantage de rendez-vous pourraient être offerts. Au cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, on rappelle que des négociations sont en cours avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. à partir du 1er avril 2025, les médecins de famille devront réserver une proportion de leurs rendez-vous pour des cas non urgents qui se présenteraient autrement à l'urgence en vertu du nouveau programme de GMF, ajoute le cabinet. Un ticket modérateur. L'Institut économique de Montréal, IEDM, plaide pour un ticket modérateur, des frais fixes, lorsqu'on se présente à l'hôpital, par exemple. Ça incite les gens à aller voir ailleurs avant de se présenter aux urgences, dit Emmanuel B. Faubert, économiste à l'IEDM. Les tickets modérateurs sont présents en France, où ils sont souvent pris en compte par des assurances complémentaires, précise l'IEDM. La Suède en impose aussi, mais pas aux aînés et aux jeunes. Le cabinet du ministre Christian Dubé dit ne pas vouloir aller dans cette direction. Comme d'autres médecins, le docteur Réal Barrette craint que la santé des plus démunis en pâtisse. Selon lui, certains malades pourraient faire de mauvais choix afin d'éviter des frais. Réduire les rendez-vous non respectés. Pas moins de 30 000 rendez-vous non respectés, nos choses, sont recensés chaque mois par les médecins de famille, selon le Collège des médecins du Québec. Cela représente 360 000 rendez-vous par année sur les 18,1 millions planifiés, soit 2 % pour lesquels les patients ne se présentent pas sans les annuler ou les reporter. Le président du CMQ, le docteur Maurice Gaudreau, demande aux patients de signifier leur absence, une responsabilité sociale. Mais d'abord et avant tout, il y a une responsabilité du gouvernement et de Santé Québec de mettre en place des façons faciles pour les patients d'annuler ou de reporter leur rendez-vous. Selon les sources consultées, les cliniques médicales ont généralement des systèmes d'annulation efficaces en ligne. Certaines ont aussi une boîte vocale pour les annulations. C'est le cas de la clinique médicale Champlain à Gatineau. Elle impose aussi des frais de 35 $ aux patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous sans raison valable. C'est le changement qu'on a fait qui a le plus réduit les no-shows, dit sa copropriétaire, la docteure Nina Paradis-Robert. C'est plate, hein, de devoir facturer pour ça. C'était 8 solutions pour les urgences qui débordent, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 3 mars 2024 dans la presse.
Six conseils pour parents pressés. Un texte de Maude Goyer, paru le 26 février 2025 dans la presse. Parler, parler, parler. L'Internet est un lieu public. Les parents doivent assurer une surveillance adaptée à l'âge de leurs enfants. Et ils doivent poser des questions, s'intéresser à ce que leurs enfants font en ligne. Invitez-les à vous parler des bonnes choses comme des mauvaises, dit René Morin, porte-parole du Centre canadien de protection de l'enfance. Rappelez-leur de venir vous voir s'ils rencontrent une situation qui les met mal à l'aise ou qui les inquiète. Le but? Demeurer la personne ressource de confiance. Configurer et contrôler. Sans devenir paranoïaque. Les parents doivent gérer l'aspect technique des appareils utilisés par leurs enfants afin de contrôler leur navigation. Selon Steve Waterhouse, expert en cybersécurité et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, certains gestes sont essentiels. Ajuster les paramètres et activer un antivirus sont de bonnes premières étapes, signale-t-il. On peut aussi restreindre les autorisations et les accès et installer un logiciel fiable pour aider à gérer l'utilisation. Demander la permission. Les enfants ont accès aux écrans non pas parce qu'ils le demandent, mais bien parce qu'on le leur donne. Une fois autorisé, cet accès est difficilement modifiable. Instaurer des règles claires est un pas vers une bonne hygiène numérique, rappelle Marc-Alexandre Ladouceur, spécialiste en éducation aux médias chez Abilo Média. Cela va dans les deux sens. Si on publie des photos ou des vidéos d'eux, il faut leur demander la permission. Le consentement, c'est la base. L'enfant développe ainsi son autonomie identitaire. C'est une façon de les responsabiliser. Soyez stratégique. Certains petits trucs, déployés tôt, peuvent éviter bien des soucis pour la suite. On peut, par exemple, inciter notre enfant à ne jamais dévoiler sa véritable identité en ligne. Se créer un persona est préférable. Ça n'élimine pas tous les risques, mais ça les atténue, souligne Steve Waterhouse. Regrouper tous les mots de passe dans un cahier commun permet une gestion ouverte et transparente. Aussi, créer une liste de vidéos prévisionnées diminue les dangers de l'écoute en continu, suggère Marc-Alexandre Ladouceur. Vivez hors ligne. Est-ce que vous donnez l'exemple? En matière de gestion des écrans, rien de mieux que d'incarner ce qu'on prône. Les moments de déconnexion sont cruciaux, dit René Morin. Instaurer des périodes de déconnexion, par exemple pendant les repas, avant le coucher et pendant la nuit. On peut même désactiver le Wi-Fi pendant la nuit afin que personne ne se fasse déranger durant son sommeil et pour éviter les distractions. Et pourquoi pas une petite détox numérique, une journée par semaine, le dimanche par exemple? Informez-vous. Les enfants savent comment utiliser la technologie. Et vous? Des formations, outils en ligne et sites crédibles existent. Il suffit de s'intéresser au sujet et de faire une petite recherche. C'était « 6 conseils pour parents pressés », un texte de Maude Goyer, paru le 26 février 2025 dans La Presse.
Kev Lambert, les voix de l'imaginaire de l'enfance. Une entrevue réalisée par Ariane Lehoux, parue le 18 novembre 2024 dans Les Libraires. Kev Lambert est une voix marquante de la littérature québécoise contemporaine, ayant raflé maints prix, distinctions et nominations. Son premier roman, Tu aimeras ce que tu as tué, était notamment en sélection pour le prix des libraires en 2018, puis son second, Querelle de Robert Val, finaliste pour ce même prix en 2019 et couronné du prix Sade en France. Issu de sa thèse de doctorat, son troisième roman, Que notre joie demeure, lui vaut les prix de la page 111, Décembre, Médicis et Ringuet. Les Sentiers de neige, quant à lui, explore entre autres les thèmes de la construction de soi à l'âge tendre et de la complexité des rapports familiaux intergénérationnel, ainsi qu'au sein même de la famille proche. Ce récit imaginatif, haletant et introspectif prend place dans les paysages enneigés du lac Saint-Jean, où Zoé retrouve son père pour les fêtes. L'enfance, c'est précieux, mais c'est aussi un lieu de peine, d'humiliation, de transition. Il y a une frontière imperceptible qui sépare ce monde de celui des adultes, des parents. Dites-nous en plus sur votre inspiration pour ce conte d'hiver. L'inspiration est d'abord venue de mon enfance et de mon rapport à la lecture enfant. Je désirais réfléchir à cette envie brûlante que j'avais de m'échapper dans les livres et leur monde merveilleux. J'ai cherché la porte de Narnia dans tous les garde-robes. Pourquoi mon désir d'évasion était-il aussi fort? Dans quel monde ai-je grandi pour que les autres univers m'apparaissent plus accueillants? Cela posait nécessairement une question sociale. Je désirais aussi défendre la singularité du monde des enfants qui se font souvent raisonner par les limites mentales des adultes et leur système logique et plate. L'imagination débridée de mes personnages est un mode de révolte et de résistance à leur raison raisonnante. Ces sentiers de neige sont ici ceux de l'imaginaire des enfants. Citation « Peu importe ce qui nous arrive, On a toujours un monde secret à portée de main, un royaume merveilleux où l'on peut s'enfuir à volonté. » Fin de citation. Décrivez-nous ces sentiers emplis de magie et d'épouvante qu'empruntent Zoé et Emiane. Les sentiers que découvrent Zoé et Emiane leur paraissent étrangers et mystérieux. Un être masqué, dont les intentions sont obscures, les guide vers ce pays des merveilles. Mes personnages bricolent ces cavernes et ces sous-sols avec les matériaux imaginaires qui les font vibrer, comme la structure du donjon qui est inspirée des jeux vidéo Zelda. En explorant leur donjon, c'est leur vie intérieure, le continent des sentiments cachés, enfouis, qu'ils atteignent. Je me suis demandé comment des enfants pouvaient se figurer ce qu'on appelle l'inconscient. C'est cette forme que j'ai choisie, ce monde souterrain dangereux et attirant où ils seront confrontés à une partie de leur expérience qui fait un trou dans le sens. Citation : La famille, ce havre de sécurité, est en même temps le lieu de la violence extrême. Fin de citation, extrait de « Les nourritures affectives », Boris Cyrulnik. Dans votre roman, comment représentez-vous la famille? Émis de dire, citation, « C'est tellement con une famille, du monde que t'es obligé de voir une fois par année même si tu les haïs. » Fin de citation. La famille, on ne la choisit pas. Il y a toujours cette ficelle qui nous rattache aux gens qui la composent. Je la représente avec beaucoup d'ambivalence. La famille est à la fois mythique, plus grande que nature, grandiose, tout en montrant son côté monstrueux, son aspect grotesque, parfois dangereux pour les enfants. C'est à la fois un hommage et une critique. J'ai beaucoup travaillé à reconstituer l'atmosphère des grandes fêtes familiales au lac Saint-Jean, ce brouhaha de paroles qui fusent, de corps massifs, imposant du point de vue des plus petits. J'ai aussi voulu qu'on entende le génie créatif de la langue, son humour et sa méchanceté parfois. Les enfants sont enragés contre la famille parce qu'ils ont l'impression que c'est une relation arbitraire qu'on ne choisit pas. On ne peut leur donner tout à fait tort. C'est pour s'évader de ces liens forcés qu'ils se creusent des tunnels vers ailleurs. Là-bas, ils repensent au rapport de manière inattendue, plus libre, mais pas moins souffrante. Ils découvrent aussi qu'il y a une familiarité entre toutes les peines. C'était Kev Lambert, Les voix de l'imaginaire de l'enfance. Une entrevue réalisée par Ariane Lehoux, parue le 18 novembre 2024 dans Les libraires.